Bonjour et bienvenue sur Science Sport Endurance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. J'espère que tu es bien installé car aujourd'hui, on accueille Tony, un ancien militaire des forces spéciales de l'armée française qui a développé sa marque Émotion qui révolutionne le secourisme dans le monde du sport. Allez, on se retrouve tout de suite avec Tony. Salut Tony, comment vas-tu?
Bonjour Jérémy, ça va très bien. Je te remercie de m'accueillir.
Ouais, bah c'est nous qui te remercions d'avoir accepté notre invitation pour réaliser ce petit podcast. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour les gens qui te connaissent pas forcément?
Oui, bien entendu. Alors moi, c'est Tony et je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle Émotion et qui a pour ambition de changer l'image des premiers secours tout en accompagnant des sportifs de haut niveau, qu'ils soient professionnels ou amateurs, dans leur pratique outdoor. Donc ça, c'est ce que je fais au niveau professionnel. Avant d'entreprendre ça, parce qu'aujourd'hui j'ai 30 ans, j'ai passé 10 années dans l'armée française et plus particulièrement au sein des forces spéciales.
D'accord, super. Bah justement, avant de parler un peu plus de émotion, j'aimerais savoir, ou même les gens qui nous écoutent, je pense, voir un peu d'où tu viens, comment tu as commencé le sport, parce que émotion, c'est quand même en rapport avec le sport, et du coup, voir un peu ton histoire par rapport à ça.
Tout à fait, émotion, comme tu dis, c'est un rapport avec le sport. Émotion, c'est la fusion de deux passions. La première, c'est le sport, que je pratique depuis tout petit, puis jeune. Et le secourisme, ça fait partie, c'était une de mes casquettes lorsque j'étais dans l'armée. Et comme tu souhaites que l'on commence par l'aspect sportif, écoute, moi, j'ai fait très jeune du sport collectif. J'étais tourné sur le football. Football pendant une paire d'années, avec l'ambition, comme tout jeune garçon, d'en faire son métier. Donc j'avais déjà à cet âge-là, malgré un jeune âge, un esprit de vouloir être le meilleur pour essayer d'en faire mon métier. Je ne sais pas si tu connais de près ou de loin ce milieu, mais voilà, il y a plein de facteurs qui font que tu peux percer ou non.
Ouais, bah moi, je pense que je suis je dois être l'un des seuls à jamais avoir fait de foot. Moi, j'ai fait un peu de tennis quand j'étais vraiment tout jeune, parce que c'était en face de chez moi, mais non, je suis pas un footeux.
Comme tu parles de tennis, moi j'ai fait du football à partir de 7 ans, je crois. Et juste avant, quand t'as pas le choix des sports, je fais de la natation, j'ai fait du tennis, j'ai fait un petit peu de karaté. En gros, j'ai touché à tout. Dès lors que j'ai eu le choix, mes connaissances scolaires faisaient du foot. Je me suis tourné vers ça. Sport co, très, très intéressant pour moi. J'ai beaucoup aimé ce domaine-là. Et puis, au final, je n'ai pas percé dans le football, non pas parce que je me suis fait les croisés, comme beaucoup racontent, tout simplement parce que je n'étais pas assez bon. Et à cet âge-là, donc c'était vers l'âge de 15 ans, quand j'ai réalisé qu'au final, je ne pourrais pas être professionnel, je me suis tourné vers d'autres envies. Et j'avais déjà en tête l'ambition et l'envie d'entrer dans une unité de l'armée, une unité qui est, des unités, parce que je n'avais pas encore très bien défini laquelle, mais des choses spéciales où des sélections physiques sont au menu pour sélectionner ses membres. Et du coup, je me suis tourné après vers des sports individuels dans le but de préparer ma future vie professionnelle. Et donc, j'ai fait de la sport de combat, j'ai fait un petit peu de boxe anglaise, j'ai fait de la boxe thaïlandaise aussi, où j'ai pu atteindre un petit niveau qui m'a permis de monter sur un ring. Et je trouve que monter sur un ring, ça fait apprendre beaucoup de choses sur soi-même. Et couplé à ça, eh bien, beaucoup de course à pied. Course à pied, je dirais, loisir, même si je me suis frotté à 2-3 crosses, 2-3 semi-marathons pour voir mon niveau.
T'as des petits temps de référence, histoire que ça parle.
J'ai des vrais temps de référence, parce que pour rentrer dans ces unités-là, le socle commun de base, c'est la course à pied. Donc par exemple, au moment où moi j'étais prêt à postuler à ces tests, au 10 km j'étais en 38 minutes sur du plat.
Ouais, ça commence à être déjà un temps honorable.
En fait, j'avais l'objectif de passer dessous les 40 minutes. Donc bien entendu, là si on parle de footing loisir en short, t-shirt, basket. Mais parce qu'ensuite, lorsque tu entres dans ces unités, les tests se font avec des chaussures montantes, en pantalon, avec peut-être un sac à dos.
Ouais, avec des rangers et tout, quoi, équipés, quoi.
Exactement, équipés. Donc moi, j'avais l'objectif de passer sous les 40 minutes au 10 km en course à pied, ce qui a été fait. Semi-marathon, que je dise pas de bêtises, si je vais en dire. En fait, j'ai plus de... J'ai plus de souvenirs en short t-shirt, mais je me souviens très bien que par exemple 15 km, ça m'avait marqué, c'est pour ça que je m'en souviens. On avait fait les 15 km dans le sable au niveau des sélections. Dans le sable avec des chaussures montantes, comme tu l'as dit. J'étais à 1h10 ou 1h12.
Ah ouais, dans le sable. Ouais, vache.
Alors, sable dur, hein, on est malin, on se met au plus proche de l'eau, mais ouais, ça reste du sable.
C'est clair. C'est pas le rendement de la route, hein, ça c'est clair.
Non, non, pas du tout. Donc, ouais, beaucoup de courses à pied parce que c'est important d'avoir une bonne VO2 max. Pour travailler aussi sa VO2 et l'enchaînement d'efforts, je me suis tourné aussi vers le crossfit.
Ok, c'est intéressant ça.
Donc, voilà, comme tu vois, beaucoup de.
Puis du coup, en plus, j'imagine que ta corpulence est plutôt lourde, enfin. Avec le crossfit, etc., tu dois avoir une bonne masse musculaire et ça, c'est pas forcément propice à une énorme performance en course à pied, quoi. Donc, c'est encore plus honorable.
Non, pas tellement. Bien entendu, il y a des gens qui ont une belle masse musculaire. Au CrossFit, alors moi déjà, je n'ai pas une grosse masse musculaire. Je mesure 1m80 et je suis aux alentours des 75 kilos. Et les personnes qui sont très, 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 très fortes en CrossFit que moi j'ai connues, alors certains ont un gabarit imposant, mais de base. Sinon, voilà, on est quasiment sur du 1m80, 80 kilos, 81, 82, mais pas plus, quoi, parce que. Au CrossFit, c'est un enchaînement d'exercices. Bien entendu, parfois il y a de l'haltérophilie, mais il y a aussi de la gym. C'est pas des haltérophiles, quoi. C'est des mecs qui sont complets. Par exemple, pour revenir sur l'aspect corpulence, il y a une petite phrase dans l'armée, particulièrement dans l'armée de terre. Moi, j'étais dans la marine. Dans l'armée de terre, il y a une phrase qui dit faut être comme un chat maigre. Voilà, le physique pour réussir ses sélections au début, il faut être vraiment quelqu'un qui grimpe partout et qui court longtemps.
Ok, ah, c'est intéressant parce que souvent les gens ils ont un peu l'image du militaire qui doit faire 100 kilos, baraqué comme jamais, etc. Alors qu'au final, pas du tout, quoi.
Cette image n'est pas fausse, mais elle intervient après, tu vois. C'est-à-dire que moi, je me suis épaissi après avoir passé tous ces filtres, parce que tu arrives sur une unité où tu as des besoins dans ton emploi, comme porter un gilet pare-balles, porter un bouclier, et pour faire correctement ton travail, et bah tu te renforces, tu fais de la musculation qui va te servir. Et là, à ce moment-là, tu t'épaissis. Mais sinon, les filtres de sélection demandent de beaucoup courir. Et donc tu as de la course à pied, plus ou moins longue distance, ça veut dire de 8 km jusqu'à 30. C'est de la course à pied avec le sac sur le dos, parfois dans le sable, parfois sur des sentiers côtiers. Et tu as aussi beaucoup de parcours d'obstacles, toujours avec un sac à dos qui cette fois est plus petit, il fait 5 à 6 kilos. Mais voilà, c'est des parcours où tu dois enchaîner des obstacles et où tu dois te faufiler, donc ramper, grimper, sauter. Pour réussir ces tests, c'est bien de ne pas être trop corpulent et pas trop en muscles, je dirais, en muscles épais. Par contre, par la suite, oui, l'image que tu as du militaire un peu peut-être américain, Navy SEALs, qui traîne dans les films, bah après voilà, c'est vers ça qu'on se tourne, parce que l'emploi le demande. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche aux sélections.
Ouais, c'est bizarre ça, qu'au final, ce qui te fait rentrer dans l'armée, et bah ça change après quand t'y es, quoi. Enfin, c'est assez spécial, je trouve.
Ouais, c'est assez spécial. Écoute, c'est propre aux unités que moi j'ai connues. Je parlerai pas pour les unités spéciales de l'armée de terre, de l'armée de l'air, parce que je les ai simplement croisées en mission. Mais moi, voilà. Ce par quoi je suis passé, on demande d'être endurant, fort mentalement. C'est ce qu'on demande au test. Et ensuite. Eh bien voilà, vu que le menu physique est un peu moins intense, eh ben, la
Okay.
musculation te permet de t'épaissir et d'être capable de remplir ta mission qui est de porter du matos et du matos qui est spécifique et donc lourd.
Ouais, j'imagine. Et est-ce qu'il y a des préparateurs physiques ou pas à l'armée?
Alors, il y a des profs de sport, des professeurs de sport, mais à la différence de ce qui se fait dans l'armée américaine, on a toujours un petit temps de retard. On n'a pas de préparateur physique, on n'a pas de nutritionniste. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que dans l'armée américaine, il y a ce genre de spécialiste. Et je pense que nous, on en aurait besoin parce que les efforts qu'on nous demande de produire sont des efforts de sportifs de haut niveau. Séances d'entraînement qu'on s'inflige en groupe sont des séances de sportifs de haut niveau, j'en suis persuadé. Mais non, on n'a pas de suivi à ce niveau-là.
Bah justement, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai des amis qui sont dans l'armée, dont un en armée de terre, et il me disait enfin, que c'était un peu n'importe quoi à ce niveau-là, parce que il les faisait courir tous les jours à des allures un peu bizarres, on va dire. Et même par exemple, lorsqu'ils avaient des, je sais pas comment on appelle ça, enfin des vacances ou je sais plus comment on appelle ça dans l'armée, et ben quand ils revenaient, alors qu'ils n'avaient pas couru pendant 2 semaines, ils leur refaisaient courir directement, enfin énormément, et du coup il y en avait beaucoup qui étaient blessés, etc. Et j'avais la même pensée que toi. Pour moi, les gens dans l'armée, ça doit être traité limite comme des sportifs de haut niveau. Du coup, je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait des vrais préparateurs physiques, tu vois, qui mettent en place des entraînements cadrés, etc., pour que les soldats, quand ils partent en OPEX, ils soient au top de leur forme, quoi.
Ouais, tout à fait. Bah, dis-toi qu'on y vient doucement. Je t'ai dit, on a un peu de retard, donc un peu, c'est 20 ans. Aujourd'hui, au sein des forces spéciales, donc c'est qui se fait de mieux dans l'armée parce que c'est des missions qui sont spécifiques. On y vient doucement. On fait venir parfois des intervenants, par exemple là où j'étais, pour faire du crossfit. Eh bien, on faisait venir un prof de crossfit parce que le crossfit, ça s'improvise pas. C'est-à-dire, on peut, entre guillemets, soulever des poids n'importe comment et enchaîner. On peut se faire mal sur un mauvais mouvement. Alors que d'avoir la participation et l'intervention d'un préparateur dans cette discipline, une fois par semaine, par exemple, eh ben, ça permet de nous accoutumer aux bons mouvements d'haltéro. Parce que quand tu as 25 ans, entre 20 et 25 ans, bah, tu peux faire des mauvais mouvements, tu as peu de chances de te blesser. Mais voilà, il faut optimiser son physique. Et avoir quelqu'un qui te conseille sur des mouvements spécifiques comme l'haltérophilie, ça a du sens, tout comme ça aurait du sens d'avoir un préparateur physique, un nutritionniste, un kiné, un ostéopathe peut-être. Mais ce n'est pas le cas. On y vient doucement, mais ce n'est pas le cas.
Ouais, c'est dommage et ouais, j'espère que ça va évoluer dans le bon sens.
En tout cas, les personnes qui sont aujourd'hui le noyau dur de l'armée, ils sont de notre génération, hein. Ils ont entre 25 et 35 ans. Et ces gens-là grandissent avec cette culture de la préparation physique parce que on s'entraîne tous très dur dans ces métiers, parce qu'on sait que le physique doit tenir. C'est notre carte d'entrée dans ces milieux militaires et notre assurance lorsque l'on part en mission. Avoir un bon physique nous permet plein de choses. Et comme ils sont de notre génération, ils ont conscience qu'il faut passer par des gens spécialisés, et donc ils font peu à peu évoluer la mentalité dans ce domaine.
Ouais, c'est clair. Faire appel à des gens spécialisés, ouais, c'est augmenter la potentialisation de performance des militaires, quoi, ça c'est clair. Et du coup, c'est quoi la suite du coup pour toi après cette période au sein de l'armée?
Eh bien écoute, cette période au sein de l'armée, elle a duré 10 ans, donc de mes 19 ans à mes 29 ans. Ça s'est donc terminé au mois de février 2021. Donc, tu vois, c'est assez récent. Mais avant de quitter donc cette institution militaire, je me suis dit que plutôt que de partir sans rien, j'allais commencer à préparer ma reconversion, comme on dit. Et j'ai créé, avant de partir, une structure privée. Parce que dans la dernière année où tu es en lien avec l'armée, ils t'autorisent à entreprendre des choses pour justement ne pas être entre guillemets à la rue lorsque tu t'en vas.
Ah, c'est drôle ça, parce que ça fait vraiment encore référence aux sportifs de haut niveau, comme s'il préparait un peu son après-carrière de sportif de haut niveau. C'est drôle ça.
Y a un lien, il y a carrément un lien. Tu l'as dit, hein, les mecs qui sont dans l'armée s'apparentent parfois à des sportifs de haut niveau. Là, moi, je te parle d'unité spéciale. Donc, c'est des gens qui sont sélectionnés sur un plan physique. Tout d'abord, puis ensuite mental et cérébral. Et donc tout est optimisé et on est quasiment sur de la préparation de sportifs de haut niveau lorsqu'ils partent en mission. Lorsqu'on part en mission, c'est comme si on préparait une compétition internationale. Et donc il y a un format d'entraînement spécifique au travail, mais aussi physique. Et ensuite, comme tu le dis, après, pour la préparation d'après-carrière, il y a une pré enfin, il y a une... il va y avoir quasiment un emploi du temps sur mesure qui va être permis par l'institution à ce militaire et qui lui permet d'entrevoir la suite plus clairement. Donc moi j'ai eu la capacité de, enfin la capacité, j'ai eu l'opportunité pardon de créer quelque chose avant de partir et donc je me suis servi d'une de mes qualifications parce que lorsque tu es dans ces unités spéciales, c'est des petits groupes qui partent en mission, quasiment un sport collectif, hein, on part à 10 ou 15 à l'étranger pour remplir des missions spécifiques. Et donc on a tous plusieurs casquettes. Certains font de la démolition, d'autres de la radio, certains des nouvelles technologies comme les drones. Et moi, ma casquette, en plus de faire de l'hélicoptère, du parachutisme, d'avoir un fusil, eh bien, Je faisais du secourisme spécialisé, c'est-à-dire que il y a l'opérateur de base, il y a ensuite l'infirmier et le médecin, mais entre les deux, il y a certains militaires qui sont spécialisés dans ce domaine-là, ce qui permet, lorsque l'infirmier est blessé ou lorsqu'il y a un cas de multiples victimes ou blessés, eh bien de prêter main forte et d'avoir des notions un petit peu plus avancées que la moyenne.
D'accord. Et ça t'est arrivé du coup d'intervenir sur des blessés de ton unité ou
J'ai eu la chance que de ne pas intervenir sur des blessés de mon unité. C'est une grande chance, bien que j'ai été préparé. Mais par contre, quand tu pars à l'étranger, tu travailles avec de la population locale, des militaires locaux. Et donc, ça m'est arrivé d'intervenir sur des blessures de guerre, sur ce type de personnes, en réel. Donc, voilà, j'ai pu mettre à contribution tout ce que j'ai appris pendant ces années. Et ça s'était plutôt bien passé, donc j'en garde un bon souvenir. Et comme je te disais, grâce à à ces qualifications donc, qui me plaisaient, je me suis dit que j'allais faire, enfin transposer ce que je faisais dans l'armée au sein du monde civil. Et donc j'ai créé une structure que tu as introduit au début de notre échange, qui s'appelle Émotion. Et cette structure privée, elle a pour ambition d'apporter ce sujet du secourisme dans le monde du sport, particulièrement outdoor et sport extrême, pour que les sportifs eh bien, perçoivent d'un autre œil ce sujet du secourisme qui souffre de plusieurs a priori pas très sympas. Mais grâce à ce que j'entreprends, eh bien, par des produits, par des formations et des échanges avec ces sportifs, je fais en sorte et on fait en sorte que les sportifs qui sont parfois dans des zones isolées eh bien, aient un petit peu de matériel et surtout quelques connaissances pour réagir, parce que lorsque l'incident ou l'accident arrive, eh bien, soit on est seul, soit on est avec un partenaire d'entraînement, et c'est important de pouvoir réagir.
Ah, c'est vraiment innovateur comme idée. Enfin, je pense que tu es le seul dans le game, on va dire. Parce que, à ma connaissance, en vrai, je connais personne qui fait ça. Et l'idée, tu l'as eue tout seul ou tu es avec des amis à toi?
Eh bien, écoute, je confirme déjà ton premier ressenti. Oui, je suis tout seul dans le game. C'est à mon sens quelque chose d'aberrant, mais je vais pas me plaindre, hein, je suis seul à faire ça, donc je m'efforce de le faire correctement. Et comment est-ce que c'est arrivé? Écoute, pour tout te dire et être totalement transparent avec toi, cette idée, pardon, elle est née lorsque j'étais encore dans l'armée. Donc j'ai quitté l'armée en 2021, au tout début de l'année 2021. Et en 2015 et 2016, il y a eu des attentats en France, donc que tout le monde connaît et a suivi. 2015 à Paris et 2016 à Nice, lors du 14 juillet. Pendant ces attentats, moi j'étais à l'étranger en mission, et donc j'étais à l'étranger dans le but de protéger indirectement la France et ses intérêts. À l'étranger, je me suis senti vraiment bête, tu sais. C'est-à-dire que tu passes tout un tas de filtres, tu es sélectionné, ensuite tu es entraîné, ensuite tu es très équipé et on t'envoie à l'étranger, loin de ta famille, avec tes meilleurs copains. Pour bah voilà, réaliser des missions pour la France. Et au final, on a tous été spectateurs de ça, de ce qui se passait en France, et moi je me suis senti un petit peu bête, impuissant, inutile même, pour tout te dire. Et je me suis dit, écoute, quand tu auras terminé cette période dans l'armée, tu mettras tes connaissances au profit du grand public. Et je m'étais arrêté là. Et par la suite, bien ça a germé, et puis un an avant de partir, je me suis dit, le grand public c'est large, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose de plus spécifique, quelque chose qui te plaît? Parce que quand tu crées quelque chose, ça demande de l'engagement, de l'effort, des nuits de travail. Et donc si je peux faire quelque chose qui me passionne tant professionnellement, affectivement, je dirais, c'est-à-dire avoir un sujet qui me tient vraiment à cœur, eh bien je pourrais passer plus de temps à travailler et je ne vais pas le percevoir comme une corvée. Et donc me rapprocher du monde du sport, ça avait du sens pour moi. Et en grattant un petit peu, eh bien ça avait aussi du sens pour faire évoluer ce monde des sports outdoor. Parce que lorsqu'on fait du base jump, du ski, du parapente, du VTT de descente, de l'escalade et j'en passe, tout ce qui traite des sports outdoor et extrêmes, eh bien s'il se passe quelque chose d'imprévisible dans une zone isolée, eh bien jusqu'à présent, la plupart d'entre nous, d'entre vous, eh bien on est à poil, c'est-à-dire on n'a pas de matos et on n'a parfois pas de connaissances ou trop peu pour retenir les fondamentaux lorsque c'est ton partenaire d'entraînement qui se blesse gravement devant toi.
Ouais, carrément. Les seules choses qu'on a, je pense, c'est lors de la journée d'appel, je crois que, enfin, si je me rappelle bien, parce que ça fait un moment, je crois que c'est en seconde, quand on arrive au lycée, qu'on fait ça. Il doit avoir juste un petit truc de secourisme en mode comment réanimer quelqu'un et tout, mais je suis persuadé que 80% des personnes ont largement oublié ce qu'on a essayé de leur apprendre un petit peu à ce moment-là, quoi.
Ouais, c'est exact. Et comme tu dis, donc on a tous, enfin jusqu'à présent, les seuls moments obligatoires pour faire, enfin pour apprendre le secourisme, c'est lors de la journée d'appel. Donc c'est 2 heures. Ensuite, certains ont des interventions au lycée ou au collège selon les possibilités et les désirs des structures scolaires. Et depuis 2017, donc depuis que le président Emmanuel Macron a pris son quin, enfin sa présidence et a commencé son quinquennat, il avait le souhait de former 80% de la population aux gestes de premier secours. Et ce chiffre, il n'est pas anodin. C'est simplement qu'en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Finlande, eh bien, la population est formée à hauteur de 80%. Et en France, nous, on n'est qu'à peu près à 30%.
Ah ouais, il y a vraiment un gap entre ces pays et la France.
Carrément, il y a un cap vraiment, vraiment important. Et c'est pas totalement de la faute de la population française, à mon sens. C'est surtout qu'aujourd'hui, si on parle de premier secours, toi et les gens qui nous écoutent, pour beaucoup, on va avoir des a priori tels que ce sont deux secouristes avec un gilet orange qui vont venir nous apprendre des gestes de premier secours. Ils ont un mannequin avec eux. L'un des deux secouristes est moche avec une vieille moustache. Et il emploie un ton qui est généralement moralisateur et pas très divertissant et attractif. Moi, j'en pense, tu vois, je sais pas si toi, tu as déjà eu. Enfin oui, tu as déjà eu affaire à ces formations, mais je sais pas si c'est l'avis que tu en as aussi, mais je pense qu'on peut faire mieux.
Ouais, c'est clair que je pense que c'est la vision qu'on a un peu du truc.
Et donc moi, avec émotion, en me rapprochant des sportifs et avec ma vision, le but du jeu est de mettre un grand coup de pied là-dedans, de mettre ce sujet au goût du jour. Donc on le fait avec des formations que je donne en présentiel et qui sont aussi valables et dispo en ligne, parce qu'on les a mis un moment en ligne pour s'adapter au Covid. Et ces formations, elles sont sur mesure, dans le sens où aujourd'hui, si on parle de premier secours avec un sportif, avec toi par exemple, autour de ce podcast, ou autour d'un verre ou d'un repas, tu vas comprendre assez rapidement qu'avoir des notions de premier secours, ça peut être intéressant, mais aujourd'hui, c'est pas assez sexy pour que naturellement, tu te tournes vers de la formation. Tu ne t'es jamais avec... Avec la personne qui partage le podcast avec toi, Clément, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Avec Clément, et ben le mois prochain, enfin tu n'as jamais dit à Clément, tiens Clément, le mois prochain, on s'inscrit à une formation de premier secours parce que c'est stylé, on va passer un bon moment.
Non, c'est pas. Mais tu sais, c'est souvent des choses, je pense qu'on y pense que lorsqu'il arrive un truc grave, tu vois. Enfin, c'est pas ouf de dire ça, mais ouais, la plupart du temps, je pense que les gens, ils réalisent que ça a un intérêt, c'est important que lorsqu'il arrive un accident, quoi. Et qu'ils sont là devant et ils savent pas quoi faire, quoi.
Ouais, ben mon job à moi, c'est ça. C'est la pièce du puzzle entre les deux. C'est intéressant, mais c'est pas assez sexy pour y aller naturellement. Émotion, c'est la pièce du puzzle qui est entre les deux, et c'est pour les sportifs. C'est-à-dire que nous, on fait des formations sur mesure, comme je te disais, et ces formations, elles sont donc attractives, divertissantes. J'ai l'habitude de dire en formation que ça sert à rien d'être trop sérieux pour parler de secourisme, parce que quand ça arrive, c'est déjà sérieux. Donc mettons un peu d'humour, un peu de jeu, un peu de divertissement. C'est la meilleure façon d'apprendre et de retenir les éléments fondamentaux de ce que l'on échange ensemble. Le jeu, c'est la meilleure façon d'apprendre. T'as rien qu'à voir. Les pilotes d'avion, aujourd'hui, ils s'entraînent sur simulateur. Donc c'est des grosses consoles de jeu, quoi. Et c'est comme ça qu'on forme nos pilotes. Donc je comprends pas qu'aujourd'hui, on continue de former des gens sur un sujet qui ne les intéresse pas au premier abord, comme ça l'est. Et aujourd'hui, voilà ce que je fais. Je fais du sur-mesure aux typologies de blessures que peuvent rencontrer ces sportifs.
Et justement, tu as parlé de formation, mais tu proposes aussi de l'équipement, non?
Ouais, tout à fait. Tout à fait. De l'équipement qui est donc un petit peu dans la lignée de ce que l'on raconte depuis tout à l'heure, qui est novateur et qui est remis au goût du jour. Parce qu'aujourd'hui, si certains sportifs ne sont pas équipés de petits matériels de secourisme, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce qui existe. Et par exemple, tu sais, au mois d'août, il y a eu l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc, et il y a une personne qui est décédée parmi les participants sur la course la plus longue, donc la course qui porte le nom UTMB. Et cette personne est décédée pendant la course. Et à la suite de cet événement, je me suis rencardé sur le matos obligatoire à emporter pour assurer sa sécurité et prendre part à la course. Donc le matériel, c'est un sifflet, un téléphone, une bande élastique pour faire un strap, c'est bien notifié, un élastique et pour faire un strap, et une couverture de survie.
Ah ouais, c'est pas grand-chose.
C'est pas grand-chose parce que ce qu'on risque le plus quand on est dans une zone isolée, que ce soit en vélo ou à pied, eh bien c'est l'hémorragie.
Ouais, c'est vrai.
Une hémorragie, pour te la faire courte, donc voilà, c'est un saignement qui va pas s'arrêter tout seul si j'appuie dessus. Et il y a un abus de langage qui est employé dans le monde du secourisme, c'est qu'en 3 minutes, on peut se vider de son sang. Alors, c'est pas tout à fait ça. La petite phrase, c'est: en 3 minutes, je peux perdre assez de sang pour que mon cœur se désamorce. Comme une
D'accord,
pompe de
ouais.
piscine, tu vois. Quand t'as plus d'eau, et ben la pompe, elle se met en sécu. Eh bien, en 3 minutes, tu peux perdre assez de sang pour que ton cœur se mette en sécu. Et 3 minutes, bah, si tu ne fais rien, c'est-à-dire si tu mets pas quelque chose entre la blessure et enfin, sur l'hémorragie, ça va vite.
Ouais, clairement, ouais. Et du coup, toi...
Et donc, il existe du matos très très petit, très compact.
Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, ils vont te dire, ouais, ça prend de la place, c'est lourd, etc., quoi.
Exactement. Exactement, et c'est la problématique des mecs qui font du trail. J'ai des copains qui font des ultra trail, ils ont tellement un souci du poids qu'ils coupent la couverture de survie en deux, par exemple.
Ouais.
Tu prends des cyclistes, toi tu fais des beaucoup de vélos de route, bah, j'imagine que sur tes petites sorties, et même parfois peut-être sur les longues, bah, t'en prends le moins possible, parce que le poids c'est un problème.
Ouais, clairement, t'as raison.
Et bah, mon job, c'est ça. Moi, si aujourd'hui j'ai la prétention de dire que je fais du secourisme sur mesure pour les sportifs, c'est aussi pour que dans les produits que je propose et que je fais découvrir, ils soient le plus compact et léger possible. Donc oui, je vends du matériel sous forme de kit constitué, aussi sous forme d'éléments distribués seuls. Et donc, comme je disais, ce qu'on redoute le plus, c'est l'hémorragie. Donc beaucoup de moyens qui permettent de résorber un saignement et l'arrêter, parce que les secours et les renforts vont pas arriver en 5 minutes quand je suis au milieu de la nature.
Bah oui, clairement. Et mais là, j'avais l'idée, enfin, je l'avais déjà en tête la dernière fois qu'on avait un peu parlé ensemble. C'était par exemple le casque en vélo. Autant bah, avant, on sait qu'il n'était pas obligatoire en compétition, etc. Et du coup, bah, personne ne le portait pour les mêmes raisons que tu as dit par rapport au poids, etc. Et après, bah, il est devenu obligatoire. Il est devenu obligatoire et bah, les compétiteurs pro, ils étaient pas contents hein. À l'époque, il faut le savoir, ils ont pas fait une grève, mais ils étaient vraiment pas contents qu'on leur oblige à porter ça, quoi. Et maintenant, avec le temps, c'est devenu bah, un objet stylé, tu vois, comme tu dis, un objet bah, vraiment indispensable du cycliste, quoi. Enfin, je verrai jamais. Pour moi, les mecs qui font du vélo de route sans casque, c'est pas des cyclistes, quoi. Enfin, c'est devenu vraiment un objet stylé, un objet indispensable. Et on verrait personne découper la moitié de son casque, comme tu as dit, avec la couverture de survie, pour gagner du poids, quoi. Et c'est pas pour autant que, au final, on chute pas tant que ça non plus. Je sais pas, mais c'est pas pour autant qu'on le porte pas, quoi. Je veux dire. Comme tu dis, je fais des sorties de, même si je fais des sorties de 40 bornes dans des endroits où je connais par cœur, je vais quand même prendre mon casque, quoi. Et je pense qu'il faudrait que ça soit un peu la même chose avec des outils de premier secours, quoi. C'est sûr que je chute pas tous les jours, mais il suffit du jour où bah, je chute et que voilà, je suis un peu dans la pampa et il n'y a pas un pélo à 10 km, je serais bien content d'avoir ça, tu vois.
Ouais, exactement. Bah, tu vois, c'est vrai que c'est toi qui m'avais fait cette analogie la dernière fois entre le casque et le matos de premier secours. C'est totalement ça aujourd'hui. Le casque de premier secours, il y a des marques qui se tirent la bourre pour faire les plus profilés possibles, les plus légers, les plus stylés. Mais il y a eu un moment où on a dû passer par l'obligation. Moi, ce que je veux faire, c'est ne pas passer par obligation, parce qu'aujourd'hui l'obligation, ça casse les pieds à tout le monde. On est en pleine période de crise sanitaire, on parle de mettre son masque à un moment, confinement, après couvre-feu, puis maintenant, vaccine-toi. Donc tu vois, il y a beaucoup d'obligations, et je pense que tout le monde en a un peu plein les bottes.
Ouais, carrément.
Donc pour faire passer ce message que le secourisme, c'est stylé, et tout le monde sait que c'est important, mais personne ne sait encore que c'est stylé, et bah, bien entendu, ça passe par un discours différent, ça passe par des produits qui sont vus au goût du jour. Et tu disais, en vélo, on chute pas tous les jours, mais quand ça arrive, ça peut être compliqué. On en avait parlé ensemble un petit peu en off. Cédric Gracia, ancien VTTiste de l'équipe de France, qui maintenant travaille en Andorre et vit en Andorre, et travaille aussi sur, utilise pour travailler les réseaux. Sur YouTube, il y a une vidéo de lui où il fait un saut à la Réunion pour faire des images pour ses réseaux. Et à un moment, dans la vidéo, voilà, il break et ils disent, on va boire un coup au bord de l'eau. Et sur le retour, le mec qui le suit, il a sa GoPro allumée encore, il a pas éteint. Et lui fait un soleil par-dessus son vélo, je ne sais pas pour quelle raison, mais en faisant son soleil, son frein transperce sa cuisse. Et l'artère fémorale est touchée, et bah ils sont sur un sentier au fond de la Réunion. Et lui identifie très vite que c'est une artère, mais tout ce qu'ils ont sur eux pour réagir, et ils le font plutôt bien, ce sont leurs mains, quoi. Donc j'ai eu Cédric Gracia au téléphone pour évoquer ce sujet et pour lui faire part que moi maintenant, voilà, j'existe. Émotion existe quelque part dans le sud de la France et a pour volonté de doter tous les sportifs de haut niveau, professionnels ou amateurs, enfin même en loisir, hein, tous les gens qui sortent de chez eux pour faire du sport, une activité physique, de matos de premier secours. Et il m'a dit, écoute, moi je te filerai un coup de main parce que je l'ai vécu et tout ce que j'avais, c'était ma main.
Ouais, c'est clair qu'à ce moment-là, je pense que ça lui aurait été utile d'avoir du matériel.
C'est ça, tout à fait. Donc voilà, il y a des choses que l'on peut emporter qui sont pas encombrantes. Il y a des choses à savoir qui sont super stylées. Par exemple, l'une des choses que les gens retiennent le plus dans les formations, parce que déjà j'ai toute leur attention parce que c'est au début de la formation, c'est sur les numéros d'urgence. Et ouais, quand je dis ça, c'est bizarre au premier abord. Les numéros d'urgence, ça peut être cool et stylé. Par exemple, est-ce que tu connais le numéro d'urgence qui permet aux sourds et malentendants de joindre les secours, toi?
Oula,
Tu mets dans la merde devant tout le monde, vas-y.
pas du tout.
Ok.
J'en
Pour l'instant,
rigole, c'est pas drôle, hein, mais je sais pas
il n'y
si.
a pas de rapport avec les sports, mais on y vient tout doucement. Laissez-moi le temps, je suis un professionnel. Les sourds et malentendants, il y a un numéro qui leur est dédié pour joindre les secours, parce que c'est vrai, on n'y pense pas, mais ces gens-là, comment est-ce qu'ils font? C'est le 114. Donc le 114 permet de joindre les secours grâce à un SMS.
Ok, ah, je savais pas.
C'est peu connu, mais c'est stylé. Si demain, au cours d'une sortie sportive, tu n'as pas assez de réseau pour passer un appel, eh bien peut-être que le SMS lui passera parce que tu es au pied d'une montagne et t'as qu'une barre de réseau. Ou alors que tu appelles, le discours est haché. Eh bien en envoyant un SMS au 114, tu peux entrer en contact avec les services d'urgence. Si demain tu fais de l'escalade, du parapente ou autre, et tu t'éclates la mâchoire par terre, tu te brises la mâchoire et tu peux plus parler, grâce au 114, tu peux joindre, pardon, un service d'urgence. Et ça, c'est cool.
Ouais, c'est clair que ouais, on n'y pense pas. Je savais pas du tout, tu
Bah, tu vois, voilà, là on parle pas de matos, on parle pas d'emporter quoi que ce soit, on
vois.
diversifie un moyen d'appeler les secours grâce à ton téléphone. Et
Ah,
peu de gens.
d'ailleurs, je crois que j'ai entendu parler qu'ils allaient réunir tous les numéros en un seul, si je dis pas de
C'est
bêtises.
exact. Depuis le 16 novembre, il y a un projet de loi qui a été signé qui dit on va essayer. Que aux États-Unis, par exemple, le pays est 40 fois plus grand que le nôtre. Et ils ont un seul numéro d'urgence pour les secours. C'est le 911, le 911. D'ailleurs, celui-ci fonctionne en France, pour info. Il renvoie directement au 112. Et donc, en France, ouais, ils vont essayer, enfin, ils vont tester, pardon, pendant une année de tout réunir sous un seul numéro. Ce sera vraisemblablement le 112.
Ok, d'accord. Bah, c'était déjà un peu le cas, non? Le 112, c'est...
Sans doute, c'est le numéro d'urgence européen.
Ouais, c'est ça, ok.
Effectivement, en France, si tu fais le 112, c'est une bonne chose.
Ok, et...
Mais voilà, tu vois, tu retiens le 112 et le 114, et bah, t'es sûr que dans tous les cas, tu pourras entrer en contact avec les premiers secours, même si tu es blessé au niveau de la mâchoire, par exemple, ou que tu n'as pas de réseau.
D'accord, ouais. Ouais, c'est des choses qu'on pense pas.
Et donc, voilà, ça fait partie d'un des modules de formation. Aujourd'hui, ils veulent rassembler les numéros sous un seul parce qu'on est le pays d'Europe qui comptabilise le plus de numéros d'urgence. C'est ça, c'est nous les Français. On aime bien aller faire les choses simples. C'est un peu la French touch. On a 13 numéros d'urgence en France. Ouais, donc, voilà, tout le monde peut les trouver sur Wikipédia. Ça va très spécifiquement jusqu'au numéro du pardon, ça va très spécifiquement jusqu'au numéro pour la spéléologie. Voilà. T'as le numéro pour les sports nautiques, enfin pour les secours en mer, numéro pour tout ce qui va être sport aérien ou pratique aérienne, parachutiste, parapente, planeur, voltige. Et donc aujourd'hui, ils vont tout rassembler sur un seul numéro.
D'accord, ouais, c'est intéressant. Et du coup, par rapport, pour revenir un peu à émotion, j'imagine que tu as pu trouver du coup un peu des partenaires pour t'aider, peut-être des sportifs de haut niveau. J'ai vu ça un peu sur le compte Instagram.
C'est exact. Alors écoute, on a démarché des sportifs quasiment au culot parce que je suis persuadé que ce que aujourd'hui je fais et ce que l'on fait, ça a du sens. Donc j'ai pas peur d'aller confronter mon idée à ces sportifs. Et pour tout te dire, j'ai eu zéro refus net. J'ai eu des non-collaborations parce que voilà, il y a des sportifs qui veulent d'emblée un partenariat avec de l'argent et moi j'étais pas capable de le faire. On commence tout doucement à être capable de le faire et on est à la recherche de partenariats, si des gens qui nous écoutent sont intéressés pour nous accompagner et nous faire confiance. Mais on a des sportifs qui nous font confiance, comme par exemple Yoann Leroux, qui est champion du monde de parcours, donc ancien champion du monde. Il a gagné 6 fois des compétitions internationales de parcours. Aujourd'hui, il s'est recyclé un petit peu dans l'exploration urbaine et outdoor. On a Stéphane Toureau, qui est vice-champion du monde d'apnée. Qu'on a eu la chance de rencontrer, avec qui on a échangé, qui est quelqu'un de très sympa, très ouvert, et qui a adoré ce que l'on propose. On a rencontré Michael Mahouem, qui fait partie des frères Mahouem, qui sont partis représenter la France aux JO de Tokyo en 2020, enfin en 2021, mais le nom c'était 2020. Et première fois que la France était représentée en escalade, enfin que l'escalade aussi, tout court, était aux JO. On l'a rencontré avant qu'il parte aux JO, il a dit que ce que l'on faisait c'était cool et que s'il le pouvait il nous filerait un coup de main. Mathilde Becerra, ancienne numéro 4 mondiale d'escalade, même topo. On a accompagné une femme qui fait du rallye raid, qui est partie faire un rallye au Maroc et qui a l'ambition d'accéder au Paris-Dakar. On l'accompagne grâce à du matériel, je l'ai rencontré pour la former, elle et son équipage. On a une personne qui fait de la slackline. Voilà, tous les sports outdoor, du wingsuit aussi, pardon, je m'excuse auprès de cette personne qui fait du base jump, de la wingsuit. J'ai son nom, Martino, mais je n'ai plus encore su son prénom. Enfin voilà, on a l'ambition d'accompagner tous ces sportifs. Et bien entendu, les sportifs qui font pas de sport extrême, qui font simplement du running, je dirais en centre-ville par exemple, on les accompagne aussi parce que ces gens qui font des sports en centre-ville, eh ben, ils ont accès parfois à des défibrillateurs. Tout le monde voit ce que c'est, tout le monde voit à peu près à quoi ça ressemble et où ça se trouve, mais personne ne sait comment l'utiliser et surtout parfois à quoi ça sert. Parce que tout le monde pense que le défibrillateur, ça sert à faire repartir le cœur, mais spoiler, ça ne sert pas à ça. Et voilà, donc on accompagne tous les sportifs, certains nous font confiance, on est très heureux de ça, et c'est ce qui nous permet en tant que petite start-up de continuer à travailler, parce que c'est pas facile tous les jours, mais on est persuadé que ce que l'on fait, ça a du sens et il y a de bons retours, donc ouais, on continue.
Bah ouais, carrément. Puis je pense que c'est important de passer par des personnes qui ont de la crédibilité quoi, face à des pratiquants plus loisirs. Et c'est pas pour autant qu'ils ont plus de risques qu'un pratiquant loisir.
Exact. Voilà, moi, comme je dis souvent avec les personnes qui me disent, mais tu pourrais en proposer aux commerciaux qui sont sur la route tous les jours parce que ça a du sens. Oui. Alors, moi, ce qui me passionne, c'est le sport, mais la personne qui aujourd'hui écoute ce que l'on fait dans n'importe quelle activité physique ou non, et qui fait le rapprochement avec sa vie perso, les produits qu'on propose, les formations qu'on propose, elles sont judicieuses pour lui. On prend tous la voiture tous les jours pour aller au travail, mais peu d'entre nous ont un petit truc dans la voiture au cas où eh ben, il y a un accident ou alors au cas où je suis témoin de quelque chose.
Ouais, carrément.
Mais voilà, mon axe de communication, c'est les sportifs parce que ça me plaît. J'adore échanger avec ces mecs et ces femmes parce que ce sont des gens simples. Moi, je suis simple et pragmatique. Moi, ce que je veux, c'est aller droit au but dans le sens où les connaissances que je donne, les conseils, les solutions, ils sont sur mesure, ils sont aussi faits pour qu'ils ne soient pas généraux. C'est-à-dire que le secourisme, c'est écrit quelque part à un endroit, il faut faire ça, mais la vérité, elle n'est pas dans le bouquin, dans le document référentiel de l'année 2021. La vérité, elle est sur le terrain. Et ce que l'on peut faire sur une piste de ski, on ne peut pas le faire des centres de VTT. Et du coup, on va adapter cette chose-là. Et moi, c'est ce qui me passionne, de pouvoir donner des clés, des solutions à ces sportifs diverses et variées pour qu'ils soient encore plus épanouis dans leur pratique.
Ouais, carrément, parce que chaque sport, comme tu l'as dit, a ses propres risques à lui-même, quoi.
C'est exact. On fait des formations pour terminer là-dessus. En running, trail et randonnée, on va parler par exemple de l'hypothermie, du coup de chaleur, du coup de fringale. On va parler de l'entorse, de la fracture, et sur une formation qu'on dispense aux gens qui font du parcours, parce que Yoann Leroux nous fait confiance et du coup nous a ouvert un petit réseau et un cercle de sportifs dans ce domaine. On va accentuer sur le traumatisme crânien, sur quoi faire si mon pote perd conscience à l'impact. Voilà, tout ça c'est du sur-mesure, c'est très intéressant et on se régale.
Ouais, ça a l'air en tout cas, c'est clair. Et du coup, c'est quoi un peu les prochains objectifs de émotion?
Eh bien, les objectifs de Emotion en 2021, c'est d'élargir encore un petit peu le panel de sportifs qui nous fait confiance. On commence avec des gens qu'on n'avait pas dans notre cercle de collaborateurs, avec des personnes qui font du ski freeride, du snow freeride. Et donc voilà, donc, premier objectif, c'est de grossir, comme ça, avec des gens qui nous fait confiance. Ensuite, c'est de faire savoir au sein des clubs de sport, au sein des assos, qu'on existe et qu'on fait des produits sur mesure pour ces sportifs. Faire savoir aussi à des journalistes spécialisés, à des médias spécialisés, à des gens comme toi qui font des podcasts, que nous on fait ça et que ça a pour unique et seul but de faire évoluer la pratique des sports. Parce que comme tu l'as dit, aujourd'hui quand on fait du vélo on a un casque. Et bien demain quand on fera du sport, et ben on aura un petit peu d'émotion avec soi, que ce soit des produits ou des connaissances. Et puis à terme, moi, l'idée un petit peu folle que j'ai, et je pense qu'il faut en avoir des idées folles pour continuer à travailler dans les dures nuits d'hiver quand il fait froid et qu'on n'a pas grand monde qui répond à nos mails, c'est de devenir le Red Bull du secourisme. Aujourd'hui, Red Bull, ça véhicule les sports extrêmes, c'est stylé. Et bien, moi, ce que je veux faire, c'est associer émotion à tous ces sports parce que ça accompagne chaque sportif, mais que derrière, on véhicule du secourisme. Donc demain, quand vous verrez le logo Émotion sur une voile de parapente, sur une combine wingsuit ou sur un casque de mec qui fait de la descente, eh bien ce sera stylé. Et en plus, ça montrera que ce mec-là, il véhicule que l'on doit avoir un peu de matos ou de notions pour réagir lorsque l'on tombe ou lorsque notre pote chute, lourdement devant soi.
Ouais, carrément, c'est un bon objectif et je trouve ça vraiment intéressant de comparer ça à Red Bull, quoi. Enfin, j'espère en tout cas que toutes les personnes qui nous écoutent iront faire un tour sur au moins le site Émotion pour s'informer encore plus du sujet et pourquoi pas obtenir du matériel qui est quand même enfin, qui est nécessaire, quoi, je pense, pour la pratique.
Ouais, qu'on peut recommander. Et puis, effectivement, ceux qui nous écoutent, qui veulent en savoir un petit peu plus, nous, on entretient un maximum la page Instagram du site, enfin du site, la page Instagram de la marque Émotion, donc c'est émotion.france, et c'est notre vitrine, voilà, on utilise les réseaux comme tout le monde le fait, comme chaque marque le fait, et on met en scène notre matos et nos connaissances à travers des sportifs. Et ensuite, sur le site internet, on a pas mal d'équipements, et le dernier équipement que je t'avais montré lors de notre premier échange en off, qui fait carrément écho à Red Bull, et qui véhicule complètement l'état d'esprit que moi j'ai et les valeurs de la marque. C'est une canette de premier secours qui est en plastique. Et à l'intérieur, on y retrouve tout le matériel qui permet de réagir à une petite blessure, de l'écorchure à l'arcade qui s'est ouverte et qui nécessite des points jusqu'à l'immobilisation grâce à une bande qui est à l'intérieur. Et j'ai bien dit une canette. Donc c'est un kit qui ressemble à une canette de premier secours, à une boisson. Et on est très fiers de ça parce que c'est unique au monde et c'est le produit d'appel de la marque qui est très accessible en termes de prix. Et aujourd'hui, quand on a une canette dans son sac, dans son van, sur son bateau de pêche, dans son porte-gobelet, c'est moins anxiogène que d'avoir une poche rouge avec une croix blanche. Ça, c'est un petit peu de la neuroergonomie, chose que j'ai découverte en me renseignant et en sourçant à droite à gauche comment changer cette image du secourisme. Et voilà. La canette de premier secours, c'est stylé et c'est utile. Donc ça coïncide parfaitement avec tout ce que je te raconte depuis quelques minutes.
Ouais, carrément, c'est stylé. Et du coup, bah, pour finir un peu ce podcast, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller faire un petit tour. Et je suis content, enfin, même Clément, on est content de partager l'information qui est vraiment intéressante et innovante.
Bah écoute, c'est cool, je te remercie beaucoup. Et puis écoute, je suis certain que lors d'une prochaine sortie, une prochaine longue sortie et défi que tu te lanceras, et bah, émotion t'accompagnera dans ta préparation pour que tu partes cette fois préparé sur ce sujet.
Ouais, carrément, je pense que personnellement, je pense que je vais m'y mettre parce que bah, pour ceux qui ne savaient pas trop, j'ai réalisé Calais-Marseille à vélo en one shot, hein, sans dormir, etc. Donc bon, il y a quand même des risques à ça. Et les seules choses de sécurité que j'ai pris et que j'avais pris, c'était une petite couverture de survie. Et j'avais peut-être un tout petit pansement ou deux, mais vraiment, mais c'était ridicule, quoi. Ridicule.
Alors que voilà, moi ce que je peux te recommander, ce serait un pansement qui tient dans une paume de main et qui fait 60 grammes, tu vois. Et que tu peux glisser dans ton gilet derrière comme si tu glissais un petit gâteau hyper protéiné.
Bah ouais, carrément, en plus.
Et ça peut te permettre de réagir à n'importe quelle chose qui saigne. Donc ça fait partie des choses qu'on recommande et que l'on a chez nous.
En plus, je pense que j'avais la place, hein, de m'éteindre, mais c'est juste que ouais, on n'a pas encore ce réflexe comme le casque, quoi. Bon, bah, je te remercie et je te souhaite une bonne soirée, et puis on se retrouve très rapidement.
J'en suis persuadé. Merci à toi. C'était cool d'échanger sur ce sujet. Et puis, eh bien, à très vite.
Ouais, à très vite. Allez, salut.
Ciao.
Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify, et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous!